Hardigan.
Hardigan présente La forme de l'eau, Shape of Water, de Guillermo del Toro et Daniel Cross. Traduit de l'anglais par Isabelle Troin. Lu par Manon Jomain. Primordium. Chapitre 1. Richard Strickland lit le brief du général Hoyt. Il vole à 11 000 pieds. Le biréacteur encaisse des rafales aussi dures que les poings d'un boxeur. Dernière étape du vol Orlando, Caracas, Bogota, Pire Royal, les phalanges du point Pérou, Colombie, Brésil. Le brief est bref, conformément à son nom, et ponctué de passages censurés en noir. Il relate, dans la poésie saccadée de l'armée, la légende d'un dieu de la jungle. Les Brésiliens l'appellent Deus Branquia. Hoyt veut que Strickland escorte les chasseurs qu'ils ont engagés, qu'il les aide à capturer la créature, quoi qu'elle puisse être, et à la ramener aux États-Unis. Strickland est pressé d'en avoir fini. Ce sera sa dernière mission pour le général Hoyt. Il en est certain. Les choses qu'il a faites en Corée sous ses ordres l'enchaînent au général depuis 12 ans. Leur relation est une forme de chantage dont Strickland veut se délivrer. S'il réussit cette mission, la plus importante à ce jour, il disposera des arguments nécessaires pour se récuser du service de Hoyt. Alors il pourra rentrer à la maison, à Orlando, auprès de Lainey et de ses gosses Timmy et Tammy. Il pourra devenir le mari et le père que le sale boulot de Hoyt ne lui a jamais permis d'être. Il sera un homme tout à fait nouveau. Il sera libre. Il reporte son attention sur le brief, adopte l'impitoyable tournure d'esprit militaire. Ces pauvres airs d'Amérique du Sud. Ce ne sont pas leurs pratiques agricoles médiocres qu'ils tiennent responsables de leur pauvreté. Bien sûr que non. C'est un dieu à branchies, mécontent de leur façon de veiller sur la jungle. L'encre du brief a bavé parce que le bimoteur a des fuites. Strickland l'essuie sur son pantalon. L'armée américaine, lit-il, pense que Deus Branquia possède des capacités qui pourraient avoir des applications militaires significatives. Son boulot sera de protéger les intérêts américains et de maintenir la motivation de l'équipe, comme l'a formulé Hoyt. Strickland est bien placé pour connaître ses théories de la motivation. Pense à Lainey, ou mieux encore, vu ce qu'il sera peut-être obligé de faire, ne pense pas à elle. Le pilote lâche des jurons portugais justifiés. L'atterrissage est terrifiant, la piste taillée à même la jungle. Lorsqu'il émerge titubant de l'appareil, Strickland se rend compte que la chaleur est visible, une brume flottante. Un Colombien portant un t-shirt des Brooklyn Dodgers et un short hawaïen lui fait signe d'approcher de son pick-up. Une petite fille accroupie à l'arrière jette une banane à la tête de Strickland, qui, trop secoué par le vol, ne réagit pas. Le Colombien le conduit en ville. Trois blocs d'habitations et de charrettes aux roues en bois, pleines de fruits et de gamins pieds nus au ventre gonflé. Strickland fait un tour dans les boutiques et achète à l'instinct. Un briquet, de l'insecticide, des sacs en plastique à fermeture étanche, du talc pour les pieds. Les comptoirs sur lesquels il pousse ses pesos exudent des larmes d'humidité. Il a étudié un manuel de phrases toutes faites pendant le vol. « Voce viu Deus Branquia ?» Les marchands gloussent et agitent les mains au niveau de leur cou. Strickland ne piche que dalle. Ces gens ont une odeur âcre et métallique, comme le bétail fraîchement égorgé. En s'éloignant à pied le long d'une route bitumée qui fond sous ses chaussures, il voit un rat maigre se débattre dans la gadoue noire. L'animal est en train de crever, et lentement. Ses os vont blanchir, s'enfoncer dans le goudron. C'est la route la plus carrossable que Strickland verra pendant un an et demi. Chapitre 2. Le réveil secoue la table de chevet. Sans ouvrir les yeux, Elisa tâtonne en quête du bouton d'arrêt glacé. Elle était plongée dans un rêve profond, doux et chaud, et elle veut y retourner rien qu'une minute. Mais comme toujours, son rêve se dérobe à sa poursuite consciente. Il y avait de l'eau noire, ça elle s'en souvient, des tonnes d'eau qui l'entouraient de toutes parts. Pourtant, elle ne se noyait pas. En fait, elle respirait mieux qu'elle ne le fait dans sa vie éveillée, dans des pièces pleines de courants d'air, dans la bouffe bon marché et l'électricité crachotante. Des tubas claironnent au niveau de la rue. Une femme crie. Elisa soupire dans son oreiller. C'est vendredi. L'Arcade Marquis, le cinéma 24 heures sur 24 du rez-de-chaussée, diffuse un nouveau film. Autrement dit, elle va devoir intégrer